Mardi 8 mai 2012, bienvenue à l'aérospatiale Julie Gagné avec vous jusqu'à 18h30 cette semaine à l'émission, tout comme dans les prochains mardis. On va vous faire des petites rediffusions d'entrevues qui ont été faites dans le cadre de l'émission La Manif en direct, qui est diffusée les samedis de 11h à 13h en direct de l'espace 400e, où on rencontre des gens, des artistes qui ont participé à La Manif. On relate les expositions, événements et autres. Donc aujourd'hui, on aura l'occasion de réécouter l'entrevue d'Ingrid Backman, c'est Bestiaire, qui est présentée à Materia jusqu'au 20 mai. On pourra aussi réécouter l'entrevue avec Eric Mattson, qui nous présentait les soirées de performance et concerts, expérience du vivant, les machines, c'est romantique, qui auront lieu d'ailleurs du 10 au 12 mai à l'espace 400e. On discutera aussi avec Diane Obomsawin, qui vient nous présenter ses deux propositions pour la manif, soit Chronique en trois mouvements, qui est présentée à l'espace centrale, et Passage, qui est présenté au musée Huron-Wendat. Raymond Poirier est là cette semaine. Hein? On a quand même du nouveau stock, là, malgré tout. Raymond, tu nous as fait une revue de presse.
Et oui, comme à l'habitude, en fait, l'actualité continue de bouger, et notamment un programme sur la Rive-Sud, en fait, des artistes qui décident d'envoyer de l'art par la poste aux citoyens et citoyennes.
Et voilà, donc c'est à suivre. Et puis, comme à chaque semaine, Simon Roy nous fera ses suggestions audio. Bonjour, Simon.
Bonjour, Julie.
Ça va bien?
Ça va très bien.
Oui, malgré la grisaille, la journée morne et triste.
Oh, moi, ça me fait pas un pli, je vais t'avouer.
Ben, tant mieux.
Je suis toujours positif. J'ai toujours de la bonne musique à offrir aux auditeurs. Cette semaine, ben, c'est un artiste que j'ai découvert. C'est un artiste qui est belge, la ville d'Anvers, plus précisément. Il s'appelle Bipolar. C'est un album intitulé Dupa, ça veut dire enfant en hindi. Donc, un album, je pense, va peut-être fitter avec la température dehors. Donc, musique ambiante assez sombre. Un album vraiment mystérieux. Donc, j'ai quatre sélections pour les auditeurs. La première pièce s'intitule Majmua. C'est suivi par la pièce Nag Kampa. Ensuite de ça, c'est Obanom. Et on termine la dernière avec Yemanja. J'ai toujours des belles pièces avec des noms compliqués.
Hein. Ben oui, hein, quand même. Ben, Simon, oui, vas-y.
Juste avant de partir, je voulais inviter les auditeurs pour les concerts de la Manif d'art, surtout les 11 et 12 mai à l'espace 400e. J'appuie vraiment fort, faut vraiment que les gens viennent. Ça va être deux soirées complètement extraordinaires pour les gens qui aiment l'art audio, tout ce qui est vraiment différent dans le domaine musical. Faut absolument que les gens viennent faire un tour à l'espace 400e. C'est là que ça se passe.
Ben voilà, puis en plus, on aura l'occasion de réécouter l'entrevue que j'avais faite avec Eric Mattson, qui va nous les présenter de manière assez motivante.
Mais c'est Simon, ça, donc il faut y aller.
Ben voilà. Simon, merci beaucoup.
Merci.
On t'écoute à Web Musique dimanche à compter de 20h.
Oui.
Et d'ici là, ben on s'en va en pause audio. On écoute un extrait de Majmua sur les ondes de CKRL. Voilà, c'était un extrait de l'album Dupa de Bipolar, une suggestion de Simon Roy. Je tiens à dire, si vous voulez écouter l'émission en balado-diffusion, vous pouvez le faire par le biais du site www.ckrl.qc.ca. Sinon aussi, les émissions de la Manif d'art sont diffusées, donc les informations sont peut-être un peu plus complètes et vous pouvez aussi vous y rendre via le site l'aérospatiale.wordpress.com. Également, vous trouverez les liens de la revue de presse de Raymond Poirier et des suggestions de Simon Roy. Et parlant de Raymond Poirier, ben, je te cède la parole, Raymond.
Oui, mais on fait quelques nouvelles. On commence avec une nouvelle pas très joyeuse. D'emblée, on fait l'artiste suisse David Weiss qui est décédé. Alors, dans le bruit médiatique peut-être des élections françaises, il est arrivé cette chose que David Weiss, de ce célèbre duo d'artistes zurichois, Fischi-Weiss, est mort sans qu'on en sache rien ou presque, là, des suites d'un cancer à l'âge de 66 ans. La nouvelle qui avait été rendue publique en son pays le jour même, le 27 avril, qui est arrivée un peu plus tard, évidemment, ailleurs. Monsieur Weiss, qui a pourtant joué d'une belle rétrospective en 2007, qui a passé par la Tate Modern de Londres, par le Musée d'art moderne également de Paris. Il avait fait, lui, éruption auprès du grand public avec une vidéo restée fameuse qui s'appelle « Le cours des choses » ou « The way things go » de 1987. Une chute de domino délirante avec des objets prenant feu, roulant, se déchirant, avec autant d'humour que de précision. Donc, il s'amusait à jouer avec le déséquilibre, l'idiotie, l'accumulation, transformer le réel en déchets à coups d'usure et a beaucoup travaillé justement à travers le médium vidéo, entre autres. Alors voilà, donc David Weiss qui s'est éteint.
Triste nouvelle.
Deuxième élément, on reste dans les notions historiques peut-être, mais dans un tout autre registre. Record historique de vente de toiles, une version du cri du peintre norvégien Edvard Munch a été adjugée mercredi de la semaine dernière chez Sotheby's à New York, 119,92 millions de dollars. Alors ça fait de cette œuvre-là l'œuvre la plus chère jamais vendue aux enchères. Le pastel réalisé en 1895 qui représente, on le connaît, un homme criant les mains sur les oreilles, était la seule des quatre versions du cri encore détenue par un particulier. Alors, l'œuvre a été donc vendue à ce prix littéralement astronomique. Ça montre à quel point, d'ailleurs, Munch augmente dans les ventes dans le marché de l'art. Et avec cette vente-là, il a battu le record mondial qui était détenu jusqu'à présent par un Picasso nu au plateau de sculpteur qui lui avait été vendu 106,4 millions de dollars en 2010.
Incroyable.
C'est énormément d'argent. Énormément. Et quand on parle de valeur, d'ailleurs, Julie, on revient au pays. On s'en était parlé, il y a de ça, plusieurs mois.
Oui, on fouille dans notre pile de dossiers, là.
Oui, on fait des petits suivis, j'aime ça, moi. On avait parlé du ministre canadien des Affaires étrangères, John Bird, qui souhaitait faire la vente des tableaux de la collection d'art du ministère, des tableaux de Riopelle, de Bordua, de Clarence Gagnon et bien, bien d'autres. En fait, il voulait vendre 22 tableaux initiaux pour tester un peu la mécanique de tout ça. Puis en fait, par la suite, essayer de vendre 140 autres tableaux désignés pour une seconde vente. Donc, on cherchait à faire un coût de 3 millions par année de 2011 à 2014, puis 1 million par année par la suite pour revenir un peu sur ces investissements-là. Finalement, ce qu'on apprend, c'est que cette stratégie-là ne sera pas, pour l'instant, mise en œuvre, pas vraiment de raison invoquée. Ce qu'on dit du côté du ministère, c'est que c'était une suggestion qui avait été faite, que c'était pas encore quelque chose qui était passer à titre de projet. Donc, qu'est-ce que sera l'autre projet? Ça reste à voir, évidemment. Mais donc, pour l'instant, donc les tableaux vont rester propriété donc du ministère, qui, cela dit, ne changera pas sa politique d'exposition non plus dans les ambassades. C'est la reine plutôt que Riopelle qu'on met de l'avant.
C'est plus plaisant à regarder d'ailleurs, hein?
Oui.
Ironique.
Tellement. Et sinon, je l'ai mentionné d'entrée de jeu, un projet que j'ai trouvé assez intéressant dans l'idée de créer des rencontres entre citoyens et artistes. C'est des centaines de citoyens de la Rive-Sud qui vont avoir une sacrée surprise, on l'imagine, en ouvrant leur boîte aux lettres ces prochains jours. Ils vont découvrir dans leur boîte aux lettres une œuvre d'art. C'est 10 artistes d'un regroupement qui s'appelle Zone d'affluence art inattendu qui sont derrière ce projet-là qui s'appelle Post-Art. Donc, à 400 citoyens de la MRC Roussillon, qui inclut notamment Châteauguay et La Prairie. Mais les artistes ont créé 40 œuvres suffisamment petites pour qu'elles entrent dans une enveloppe. Ils envoient ça aux citoyens de manière purement non sollicité, c'est un peu au hasard, et les citoyens sont invités à produire eux aussi une œuvre et à l'envoyer à l'artiste, donc l'idée étant de créer un dialogue.
Intéressant.
J'ai trouvé l'initiative assez sympathique. Je vais être bien curieux de voir quelles seront les retombées de tout ça. Il y a des artistes d'ailleurs qui sont amusés avec le système. Il y a un artiste peintre notamment qui a préparé une grande toile qu'elle a découpée en parties et elle demande au dessinateur de répondre à une question inscrite sur la lettre à même la toile et ensuite pour réussir à recréer une autre toile avec les mots des citoyens, citoyennes. Alors, des projets comme ça qui visent à créer une interactivité. Alors, on le souligne au passage.
Ben oui.
Et en terminant, c'est du côté de la France. On dirait que les gestionnaires des monuments nationaux ont envie de renouveler un peu les lieux. Exemple, château de Versailles et autres châteaux de ce type. Ce qu'on souligne du côté de l'Europe, c'est que si ces lieux étaient toujours occupés, les occupants ne les auraient pas gardés dans l'état d'il y a 200-300 ans avec le mobilier d'époque et le reste, mais au contraire qu'ils étaient des consommateurs d'œuvres d'art et de produits artistiques, si on peut dire, de leur époque. Alors, il y a un mouvement en France pour essayer justement de ramener de l'art contemporain à l'intérieur des châteaux, à l'intérieur des monuments historiques, et semble-t-il que la réponse est surprenamment positive, pourrait-on dire, là, de la part des organisateurs et des responsables de ces lieux-là qui sont très ouverts justement à faire évoluer certaines parties des collections, ou à tout le moins à l'extérieur de ces lieux-là.
Ben, Raymond Poirier, merci beaucoup.
Ça me fait plaisir.
Vendredi, t'animes La Vie en BD?
Oui, un petit regard sur le salon Nouveau Genre et sur des fanzines qui lorgnent du côté des arts visuels. On va voir Claudia Tremblay et Ilana Pinchon avec nous pour en jaser.
Voilà, on s'en va en pause audio. On écoute Nag Champa sur les ondes de CKRL. Je suis rejointe par Diane Obom-Sawin, qui présente Chronique en trois mouvements à l'espace 400e et passage au musée Huron-Wendat. Donc, bonjour Diane.
Bonjour.
Ça va bien?
Oui, oui, très, très bien. Je suis super contente d'être ici. J'adore ça. Tu sais, on rencontre des artistes, puis je suis comme dans un tourbillon de rencontres. Très contente, vraiment.
C'est une belle opportunité,
vraiment,
la manif,
oui,
un événement
oui,
comme celui-là.
Oui, 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 pour les rencontres.
Présentement, vous présentez aux deux endroits, comme je disais tout à l'heure, mais ici, à l'espace 400e, je crois que vous présentez votre première installation vidéo.
Oui, c'est la première fois. C'est donc une incursion dans le monde des arts visuels. Je l'avais fait un peu l'année dernière avec Baie-Saint-Paul, avec un commissaire qui avait introduit au symposium la bande dessinée et le tatouage comme nouvelle forme d'art. Donc ça, c'était un peu peut-être une première incursion dans le monde des arts visuels. Cette fois-ci avec une installation vidéo en fait. Et c'est très très différent. J'avais une idée un peu. En fait, à chaque fois que je vais voir une exposition et à chaque fois qu'il y a un vidéo projeté sur un mur ou trois vidéos sur un espace fermé, clos. À chaque fois, je suis attirée comme un aimant.
Ah oui?
Ah oui, oui. Alors, je me suis dit, bon, je vais faire la même chose. Je voulais faire des vidéos en continu sur les murs. Finalement, les murs sont pas tout à fait proportionnés au film. Alors, ils sont pas en continu, mais presque. Ils occupent vraiment l'espace. Donc, quand je l'ai vu pour la première fois, quand je l'avais imaginé, mais quand j'étais à l'intérieur de mon installation, là, je l'ai vraiment ressenti. comme une sensation physique.
Ah ouais.
J'avais l'impression de tomber dans qu'est-ce que je venais de faire à l'intérieur. Parce que d'habitude, je fais des histoires. Et puis, soit
en bande
dessinée.
Parce qu'on vous connaît, en fait, en bande dessinée, en illustration, ou en cinéma d'animation.
Cinéma d'animation. Puis là, on s'assoit, puis on regarde quelque chose d'un peu plus loin, là. Puis en plus, en cinéma d'animation, j'ai tendance à jamais faire de plans rapprochés. Alors, ça ressemble plus à du théâtre.
Ouais.
Alors, on est comme vraiment loin. C'est toujours des personnages un peu loin. La caméra se rapproche jamais. Donc là, ça m'a vraiment fait une surprise d'être à l'intérieur de mon travail, là. Puis ça m'a déstabilisée parce qu'il y a comme un mouvement, à un moment donné, qui roule. Puis j'ai comme failli perdre l'équilibre. Pendant un quart de seconde, ça m'a donné des idées de pousser plus loin l'installation, puis la sensation, puis le sentiment de déséquilibre.
Parce que en fait, l'installation que vous présentez, là, je crois que c'était à la demande de Nicole Gingras,
oui,
qui vous a approché, qui vous a dit pouvez-vous faire une œuvre pour la manif,
oui,
considérant que la manif traite des machines, traite du mouvement.
Oui.
Comment vous, est-ce que vous avez interprété ça par rapport à votre démarche habituelle?
La machine, ça m'a tout. Pour moi, ça a tout de suite évoqué quelque chose de une machine utopique, un peu comme un vieux inventeur ou une vieille inventrice qui ferait des instruments inutiles et poétiques. Ça m'a plutôt évoqué ça, la machine. Probablement parce que je suis très low-tech, donc pour moi, c'était dans ce sens-là. Donc, j'ai imaginé comme un système très, très facile de jouer. Tu sais, pour moi, c'était à peu près à ce niveau-là, la machine, la clé d'un jouet. Ça n'allait pas tellement plus loin que ça.
Et vous nous présentez Chronique en trois mouvements. Il y a la fleur, le livre,
oui,
les danses. Est-ce,
oui,
que, pour vous, vous dites, vous voulez un mouvement comme en continu? Est-ce qu'il y a un caractère narratif aussi? Parce qu'il y a quand même l'idée des trois mouvements qui peut...
Pour une fois, c'est... Il y a peut-être une narration, il y a quelque chose, il y a une histoire que je me raconte.
Il y a des temps, c'est ça?
Oui. En parlant à une amie avec Manon Labrec, cette histoire que je me racontais, elle l'a ressentie, elle l'a vue aussi. Mais c'est pas purement narratif. C'est plus... ça fait plus appel au sens, aux sensations, le sens dans le sens sensation que signification. J'ai l'impression que ça, c'est plus proche d'un petit groove.
Ouais.
Ça chatouille là, les picots, puis une fleur qui ouvre.
Une fleur qui ouvre grâce à un mécanisme qui est activé par une personne qui craint finalement
c'est ça,
la fleur.
C'est ça. Alors qu'en fait, elle n'a pas besoin de quelqu'un pour ouvrir, mais c'est une fleur qui a un bon tempérament, qui dit « Ok, je veux bien faire croire que c'est grâce à toi ». Donc c'est comme l'humain et puis la nature. C'est la nature, une nature assez bienveillante, là.
Il y a quelque chose, d'ailleurs, vous parlez d'une nature bienveillante. Moi, j'ai observé, il y a un côté quand même enfantin dans votre,
oui,
travail, une réflexion de l'enfant qui semble très présente. Et ça a l'air présent dans votre,
oui,
travail
dans,
partout.
Dans,
hein?
Dans tout, oui, oui. Ça, c'est même pas conscient. Mais je peux pas vraiment pas nier que c'est présent. C'est peut-être une nostalgie. Pas tellement que j'ai envie de retourner en enfance, pas dans ce sens-là, mais que probablement j'ai aimé la sensation d'émerveillement qu'on a quand on est enfant, puis j'y retourne dans les sensations, dans les souvenirs. Même les livres qu'il y a dans un des vidéos, je pensais qu'il y avait pas de, il y a pas, je savais pas pourquoi j'ai mis ça. J'étais juste attirée parce que c'est chatoyant, les couleurs. Puis une amie m'a dit, c'est comme un rappel à l'enfance. Mais donc oui, effectivement, c'est comme des bonbons, en fait. J'étais attirée par ces livres comme on est attirée par des couleurs.
Mais c'est ça. Puis en même temps, ça se traduit aussi dans la facture visuelle. Donc des,
oui,
traits noirs, souvent,
oui,
des couleurs,
oui,
qui,
oui,
qui sont assez vives.
Des aplats, des couleurs vives, oui.
Et d'ailleurs, on parle de l'enfance, mais au musée Huron-Wendat, il y a Ici, par ici, qui est,
oui,
un film que vous avez réalisé pour l'ONF, je crois.
Oui, en 2007.
En 2007, et ça, ça traite de votre enfance.
Oui, là directement, oui. C'est un récit autobiographique de 0 à 18 ans, et c'est chronologique. Mais j'ai mis les grands axes, là, mais aussi les souvenirs apparemment anodins. Ils prennent autant de place que les tumultes, en fait, parce qu'il y a eu beaucoup de va-et-vient dans mon enfance.
Mais oui, parce que là, vous êtes né à Montréal, mais oui. Vos parents ont émigré oui. En France. Votre père est revenu ici.
Oui, il y a beaucoup de va-et-vient. J'ai fait 14 écoles, j'avais compté ça avec mon frère une fois.
Wow, ouais.
puis à un moment donné, je faisais ça comme exercice avant de m'endormir pendant très longtemps, c'est de me rappeler la chronologie pour pas, tu sais, un peu comme l'homme rapaillé, pour me ramasser, pour savoir d'où je viens. Donc je faisais ça comme exercice. Ok, on a fait ça. À un moment donné, je l'ai écrit. À un moment donné, je l'ai mis en bande dessinée. Puis là, je l'ai mis en film d'animation. Donc là, ça va. Je suis rapaillée.
Mais oui, c'est ça, parce qu'on sent qu'il y a quand même un rapport au lieu. J'imagine quand même, tu sais, d'avoir vécu comme ça, les parents qui sont pas dans le même pays.
Oui.
Comment on se positionne comme individu aussi, là, ça forme la personnalité.
Oui,
aussi.
Oui, ça. Ah, je pense que c'est peut-être pour ça que je parle autant de l'enfance, parce que ça m'a marqué. Au fer rouge, là, comme beaucoup d'entre nous, mais aussi le sentiment de non-appartenance, justement le fait d'être artiste, j'allais dire entre guillemets, mais on peut enlever les guillemets.
Assumons-le, voilà, vous êtes une artiste, oui. N'ayons pas peur de le dire.
Ben, ça ramène à l'enfance, dans le sens que. Puis cela dit, moi je pense qu'artiste, c'est comme. Beaucoup de monde, là, c'est pas juste de faire de l'art, mais là, je m'empêtre un peu. J'ai une pensée.
En fait, on parlait oui, des lieux précédemment.
Oui, oui, c'est ça. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que artiste, ça donne la permission d'être perdu. Et puis, on se retrouve entre nous. Ça donne ça donne une liberté d'être qui on est, en fait. Puis moi, en ayant eu le bagage que j'ai eu, à part être artiste, j'aurais eu du mal à m'adapter à un autre,
ouais.
À une agence de publicité ou à n'importe quoi d'autre.
À des cadres trop contraignants.
Non, c'est ça. Puis c'est ça que j'aime tant depuis la manif, là, avec le monde avec qui je parle. On peut vraiment être totalement ce qu'on est. En présence d'autres artistes. Donc, moi, je pense que c'est ça l'importance de l'art, c'est de développer. En fait, c'est la liberté, la liberté d'être.
D'explorer,
oui.
D'aller plus à fond
oui.
Dans des idées,
oui,
des concepts.
Oui, mais c'est très humain comme fondement, en fait.
J'ai envie peut-être en terminant de parler parce que vous présentez un autre film au musée Huron-Wendat qui est Marche dans la forêt. Donc il y a aussi été, je pense que c'est une commande dans ce cas-là de l'ONF.
À l'ONF. En fait, l'ONF appelle ça des films d'auteur de commande.
OK.
Donc il y a une commande, mais on y va avec notre facture. Là, c'était pour la télévision APTN. Par rapport aux Jeux Olympiques, ils voulaient faire une série de films qui seraient projetés pendant sur un site pendant les Jeux Olympiques.
Ok.
Finalement, je pense que ça n'a pas marché ça, mais ça a marché que ça a joué à la télévision APTN. Puis là, il y a une compilation de films qui est allée dans plusieurs festivals, des films autochtones de plusieurs pays.
OK.
Et je me suis basée sur une légende Cherokee.
Oui, oui, oui.
En fait, qui me plaisait bien parce qu'il y avait quelque chose d'un peu magique dans une forêt. Bon, ça, je trouvais ça très évocateur. Là, puis il y a plein d'animaux. Faire des animaux, c'est agréable. C'est des animaux qui guérissent dans un lac, dans une forêt.
Mais en fait, c'est un guérisseur qui se promène dans le bois,
oui.
Qui voit ces animaux-là guérir.
Oui,
ça,
c'est
ça. Ça fait lui quand même. À un moment donné, il y a un dauphin ou une baleine,
oui,
là, qui va guérir.
Oui, oui. Ben là, je me suis permis ça, là, mais... Un Moby Dick qui arrive dans la forêt. Mais ça permettait ça, le conte. Tout était là pour s'amuser.
Oui, ça laisse les perspectives ouvertes complètement.
Oui, oui, oui.
Mais c'est plaisant quand même parce que les gens qui vous connaissent vont avoir l'occasion de voir des aspects différents de votre travail. Puis en même temps, ben, comme par exemple, on connaît vos films d'animation, la BD, mais de vous voir aussi dans un nouveau contexte. Comment vous appréciez ça? Peut-être dernière question. Comment vous appréciez ça de voir ce nouveau contexte-là ou cette nouvelle pratique peut-être qui s'ouvre devant
moi,
vous?
C'est incroyable. La première fois je l'ai vu. Mon installation. Après, je suis rentrée à Montréal. J'ai fait une sieste, puis je flottais.
Ah ouais?
Ah oui, j'étais vraiment contente. Il n'y avait même pas d'idée. Il y avait juste un sentiment de bonheur, de légèreté. Non, je ne sais même pas comment l'expliquer. Ça me rend heureuse. Parce que je trouve que ça ouvre à d'autres... d'autres possibilités. Bon, on aime ça.
Ben oui, certainement.
Oui.
Mais Diane Obonsawin, merci beaucoup. Donc, je le répète, on peut voir les œuvres de Madame Obonsawin, chronique en trois mouvements, ici même à l'espace à 400e et passage qui réunit deux films d'animation qui est présenté au musée Huron-Wendat.
CKRL est maintenant en balado-diffusion. Écoutez ou réécoutez vos émissions favorites quand bon vous semble.
Un jour ici, un jour ailleurs.
Rendez-vous sur ckrl.qc.ca et cliquez sur la section Programmation. La balado-diffusion vous permet d'écouter directement sur notre site Internet ou de télécharger les contenus désirés. En auto, à pied, en vélo ou en canot, CKRL est dorénavant plus près de vous.
La balade de l'amour.
C'est parti.
Ma boîte à cassettes.
La boîte à cassettes.
Ta boîte à cassettes.
Boîte à cassettes.
Boîte à cassettes.
Ma boîte à cassettes.
Ma boîte à cassettes.
C'est Robert Charlebois. J'aimerais bien entendre ta boîte à cassettes. Ça me changerait de la boîte à chansons.
Ma boîte à cassettes. Avec Jean-Philippe Deschênes, les mardis à 20h30.
Boîte à cassettes.
De Allman Brothers à Frank Zappa, c'est le rock de A à Z des années 60 à aujourd'hui. Concentré sur une seule fréquence. Tous les mardis dès 22h avec François Thériault et Martin Anger.
Vous désirez devenir membre du 89.1? C'est simple. Allez sur ckrl.qc.ca et cliquez sur le bouton « Devenir membre ». Pour seulement 25$, soutenez CKRL financièrement. Votre carte est valide un an. Peu importe la date d'achat.
On met à l'ampli de Québec à ne pas manquer. La relation artiste-gérant avec Hubert Mention. Interprétation vocale jazz avec Annie Poulain. Atelier pratique d'enregistrement avec Jocelyn Bouchard. Stratégie de financement privé avec Émilie Chabot. Et un atelier de slam avec Quinka. Devenez membre de l'Ampli et rendez-vous sur amplidequebec.qc.ca 418-977-9764. L'Ampli de Québec remercie la Ville de Québec pour son soutien financier, le Carrefour Jeunesse Emploi de la capitale nationale, de même que ses fiers partenaires, l'Hôtel Pur, Voir Québec et CKRL 89.1.
Cette soirée est une présentation du Bal du Lézard.
26 ans de spectacle.
26 ans d'exposition.
26 ans à recycler.
26 ans de produits du Québec.
26 ans de bonne musique.
26 ans de party.
26 ans à s'impliquer dans le quartier.
26 ans d'entraide.
26 ans à changer le monde.
26 ans de Limoilou libre.
Souvent imité, mais le bal, c'est le bal. 1049 3e Avenue Limoilou. Lebaldulézard.com.
Voilà, il est presque 18h, on entame la deuxième demi-heure de l'aérospatiale. L'aérospatiale, comme je le disais, qui est consacré cette semaine à des rediffusions d'entrevues qui ont été faites en fin de semaine pendant la Manif d'art 6, l'émission en direct de la Manif qui a été présentée à l'espace 400e. Donc, au cours de la prochaine demi-heure, on aura l'occasion de réentendre l'entrevue avec Eric Mattson et Ingrid Backman. Mais avant de retourner écouter ces moments-là, ou si vous les aviez pas écoutés, ben, les écouter tout simplement, je vous invite à aller sur le site l'aérospatiale.wordpress.com pour les rediffusions d'émissions, les liens pour la revue de presse de Raymond Poirier, également pour les suggestions de Simon Roy. Donc, on s'en va tout de suite en entrevue. On réécoute celle avec Éric Mattson. Julie Gagné, toujours avec vous en direct de la Manif, donc à l'espace 400e, et je suis rejointe par Éric Mattson, qui est commissaire d'expérience du vivant, Les Machines, c'est romantique, donc une série d'ateliers, concerts, performances. Donc bonjour, Monsieur Mattson.
Bonjour.
C'est Nicole Gingras, j'imagine, qui vous a abordé pour faire le commissariat de ces événements-là.
Oui, elle voulait, je pense que dans le cadre de l'ensemble de l'événement Manif, elle voulait une section plus événementielle, plus performative. Et c'est le volet qui m'a été demandé de monter en totale, disons, conversation avec elle et aussi en regard à l'espace de diffusion qui était possible, c'est-à-dire ici à l'espace 400e où ça va se passer la majorité du temps dans le lobby. Donc c'est un travail d'équipe.
Vraiment, hein? Vous avez monté, en fait, vous vous présentez comme les trois événements, temps 1, temps 2, temps 3. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez perçu comme étant une progression pour, c'est comme un tout, c'est... finalement, qui progresse ou?
Oui, je pense que oui, parce que il y avait l'idée de, à un moment donné, on aurait pu diviser l'ensemble, le mettre dans l'espace, c'est du temps de la manif, c'est-à-dire dans le mois de la manif. Et l'idée, c'est d'en faire un moment événementiel qui pouvait peut-être attirer un nouveau public aussi, je dirais, public qui se déplacerait presque exclusivement, pas forcément exclusivement, mais qui se déplacerait pour cette section-là. C'est-à-dire pendant trois jours, ça va être, disons, un volet différent de juste de la visite, des expositions, etc. Donc, oui, c'était comme l'envie aussi de voir une progression d'un temps 1 qui est en fait le résultat d'un atelier, et puis d'aller vers quelque chose à la fin peut-être beaucoup plus spectaculaire sur la troisième soirée. Mais en même temps, ça se... la thématique qui du début jusqu'à la fin est un peu la même, c'est-à-dire ça part de la création jusqu'à l'invention avec et finir par un événement presque audiovisuel. Oui, c'est tout à fait. Vous avez bien préperçu cette idée de la progression, c'est bien.
Ben ça s'est imposé à moi avec l'idée de temps 1, temps 2, ouais. Temps 3. Là, dans ma tête, c'était vraiment... Bref, peut-être on pourrait parler du premier temps. Dans un premier temps, parlons du premier temps. C'est Atelier Mécano. Donc, vous avez organisé un atelier avec Mille Blocs et la participation de Canta Orio.
Ouais, on pourra, on en parlera peut-être pas trop longtemps parce qu'il est plein.
Donc, il est plein, c'est ça que je voulais vous demander.
C'est un des grands succès de la manif jusqu'à maintenant. Moi, j'aime ça quand c'est plein. C'est comme tellement rare que c'est comme le fait que les gens viennent, les gens s'inscrivent. Là, il fallait s'inscrire. Il faut aussi se commettre. Il fallait que les gens mettent un peu de sous. Puis ça, c'est une manière plus de les attacher à l'idée de passer trois jours ensemble. Ça se passe ici dans un endroit magnifique, c'est-à-dire au troisième étage de ce bâtiment-ci, avec la vue sur le port, etc., là, avec une terrasse incroyable. Donc, je pense que pendant trois jours, c'est des gens qui sont dans un espèce de vase clos de création. C'est pas un atelier d'apprentissage ni technologique en tant que tel. C'est plus un atelier vraiment de création sous la direction d'un duo de Montréal qui s'appelle Mini Bloc. Et c'est comme tu mentionnais si bien, il y a comme l'artiste japonais Canta Orio, dont aujourd'hui d'ailleurs c'est le vernissage au lieu, qui est un artiste extraordinaire, ami japonais qui va participer à l'atelier, qui va y amener sa couleur en fait. Il travaille, les deux groupes, Mini Bloc ou Canta, travaillent un peu dans la même direction, même si Canta est peut-être plus technologique, mais au bout du compte, c'est des œuvres en finesse, en délicatesse, en subtilité, mais aussi en ça semble être désuet, un peu tu te demandes pourquoi c'est là, mais en même temps ça a toute une poésie. Donc je trouve que c'est une rencontre entre deux créateurs de Montréal puis un créateur de Tokyo, et ça va être très riche, je pense, pour les personnes qui vont participer à l'atelier. La seule affaire, c'est que le temps infini par un concert, donc
on va pouvoir aller voir ces créations-là.
On va les voir en fait dans le lobby ici, dans un 5-7 qui va finir l'atelier le troisième jour, le 10, grâce à un concert de Mini Bloc qui va être un peu séparé de l'atelier, mais aussi les participants selon ce qui va se passer en les trois jours, parce que pour le moment il n'y a aucune prévision vraiment de ce que les gens vont faire. Ça va dépendre de leur attention, de leurs habiletés, etc. Donc Donc, il va y avoir aussi le résultat de l'atelier qui va être présenté sous la forme d'une présentation spectacle, je pense. Mais ça, ça va dépendre totalement de ce qui va se passer pendant ces trois jours de...
Donc, on se réserve la surprise.
D'isolement et de plaisir, j'espère, partagé. Oui.
Et ça, ben, cette présentation-là, elle est le 10 mai à compter de
5 heures, d'à peu près 17 heures.
Et comme vous dites, c'est suivi d'un concert de mini-bloc.
Il faut juste clôturer ce projet-là. Puis aussi amener, un peu comme la deuxième soirée, amener, je te devance, mais...
Ben oui, c'est ça, allez-y.
Je m'excuse.
Non, j'y venais de toute façon.
Pour amener en fait une autre coloration au travail, par exemple, de mini-blocs qui sont aussi
à l'œil de poisson.
Donc, c'est comme une manière de pour le public québécois d'appréhender une autre facette de leur travail qui est celle de départ, en fait, hein, parce que mini-blocs, c'est surtout des gens qui viennent de la musique au départ et qui font... je vais devenir prétentieux, mais c'est en 2009, je leur ai demandé, pour une exposition à la Galerie Clark, je leur ai demandé s'ils n'avaient pas l'envie de faire quelque chose un peu plus, de l'ordre de l'installation, et c'est là où ça tout a commencé. Mais c'est ils viennent de la musique, donc quelque part c'est comme intéressant qu'il y ait comme le volet leur volet
leur
musique
contexte original.
Leur contexte, c'est ça apparaissent aussi dans le cas de la manif.
Et si on passe au temps 2, la soirée s'appelle « En prétextant Léonard de Vinci ». Qu'est-ce qui a donné l'idée
C'est dans l'idée de la machine. Encore une fois, quand on m'a amené à... Comme on m'a appelé à réfléchir à la musique, à des événements et à la machine, il y a eu quelques noms qui sont d'abord semblé des évidences, mais qui, je ne les nommerai pas forcément, mais qui semblaient être trop facile presque comme thématique. Deuxièmement, après ça, je l'ai dit hier lors d'une autre entrevue, je devrais dire ça. Mais j'en ai fait d'autres d'entrevues, mais l'idée c'est que quand tu parles de la machine, ça devient très facile aussi. Tu peux tomber dans un espèce de créneau, dans des créneaux très faciles, c'est-à-dire soit le penchant industriel, soit le penchant tout est machine, tu sais, tous les instruments aujourd'hui sont machines, les logiciels qu'on utilise sont considérés comme des machines, surtout les logiciels de création et de diffusion de musique. Donc il y avait un espèce de bizarre de penchant là, à ne pas dans lequel il fallait pas tomber. Et en voulant aussi me rejoindre la thématique de la machine et aussi les gens invités, les artistes invités, il y a eu l'idée que ce volet-là devait surtout correspondre à une des directions de cet événement extraordinaire, c'est-à-dire l'invention. L'idée de, donc, la référence à Da Vinci. Puis moi, j'aime bien avoir des titres comme ça qui viennent un peu accrocher, qui viennent un peu illustrer quelque chose, mais qui sont aussi un peu extérieurs, parce qu'évidemment, Da Vinci ne sera pas là.
Non.
Malheureusement, il a refusé mon invitation.
Et mais, pour cet événement-là, vous réunissez Jean-Pierre Gaultier, Quentin Aurio, Manon Labrecque, Pascal Robitaille et Ghislain Roy. Est-ce que ça va être comme une performance collective, une soirée de concert plus individuelle?
Alors là en fait, il y a encore un point d'interrogation, puisque j'ai pas vu les machines qui vont amener, mais ça va être très, très, je pense, vivant, événementiel, d'où la référence au vivant. Encore une fois, un peu comme mini-bloc, l'envie d'appeler deux, trois artistes qui sont dans la manifestation, qui sont des gens qui utilisent le son d'habitude dans leur travail aussi, comme matériaux, au même titre que le métal, que le bois, etc. Donc, inviter ces gens-là à réfléchir à une machine ou à des instruments inventés qui permettent de faire du son, tu sais. Donc, donc trois artistes de la manifestation, comme tu les as dit, Manon, Kanta et Jean-Pierre Gaultier, qui viennent présenter une autre facette de leur travail encore là. L'idée, ça va être vraiment, ici, dans le lobby, qui est en fait un espace ouvert, ça va être tout le monde ensemble, tout le monde installé, donc ça va être une espèce d'amalgame de machines diversifiées, très personnalisées, puisqu'il n'y a pas de communication entre eux avant. Et l'idée, c'est que ce que je leur offre, c'est de présenter un solo, mais aussi, peut-être aussi, selon leurs aptitudes et selon leurs envies, et selon ce qui se passera aussi avec le public et tout, rentrer dans une espèce de mode de communication entre eux, d'improvisation. Donc, mais ça va être, je pense, assez spectaculaire. Mais c'est pas un spectacle frontal, hein. On n'est pas dans...
Non, on est vraiment dans quelque chose d'organique, là, j'ai l'impression.
On n'est pas dans le festival de la chanson.
Et peut-être, il nous reste encore un petit peu de temps. temps 3 en attendant
H.J. Wells. Mais si j'ai pris trop de temps sur le reste, c'est comme... c'est peut-être la volée où il faut que le monde se déplace encore plus que le reste, et que c'est vraiment très événementiel. C'est aussi le fait que la manifestation m'a autorisé à faire venir un artiste japonais extraordinaire qui s'appelle Toshimaru Nakamura et Norbert Muslang, un Suisse qui est un ancien d'un band qui s'appelait Voice Crack. Ce sont deux personnes qui sont des maniaques de l'improvisation, qui sont vraiment excessivement connues au niveau international, qui ont une production discographique excessivement riche. Ces gens-là vont travailler. Toshi Nakamura travaille avec juste son mixeur, mixeur de diffusion, mais à travailler au niveau des feedbacks, c'est-à-dire vraiment comme un instrument de musique. Donc là, il y a un détournement de l'objet vers l'instrumentation, et c'est ce qui m'intéressait dans son travail. C'est aussi un travail très en subtilité, puisque travaillant sur le feedback et sur l'intérieur de la machine, de ce qui se passe à l'intérieur de la machine au niveau technologique, il est dans une relation de délicatesse avec la machine, une relation homme machine très importante, ouais, pour ne pas tomber dans des excès et son travail est magnifique. C'est vraiment d'une beauté totale. C'est très... Norbert travaille plus, lui, avec des objets du quotidien, des objets qui font à la fois de la lumière et du son, et il les exploite au maximum, et ça va être une performance audiovisuelle qui va rejoindre, d'ailleurs, pour juste faire la boucle, qui va rejoindre le show de Thomas Béjean au tout début, qui va être très, très, très spectaculaire, qui est en fait deux éléments rotatifs à très haute vitesse qui produisent du son et de l'image. Thomas Béjean est un artiste d'abord, mais qui fait du son. Je veux juste finir très rapidement c'est peut-être le plus musicien de tous ceux qui Vienne, c'est quelqu'un qui est très très connu sur la scène internationale, peu connu au Québec, même si on joue la semaine prochaine au FIMAV aussi à Victoriaville avec Vromb et Lucien Francoeur. Il a un duo avec Lucien Francoeur. Mario est peut-être celui qui va amener cette côté anticipation qu'il y a dans l'idée d'H.G. Wells, c'est-à-dire cette idée d'un savant fou qui invente des machines utopiques, et c'est quelqu'un qui fait de la musique électronique mais avec une très forte tendance narrative. Il y a toujours derrière une histoire. C'est un féru de science-fiction et d'anticipation, et ça va être un show un peu dans cet endroit-là, un peu futuriste, tout ça. Les quatre sont très différents, mais ça va, je pense, être un beau paquet de... Je pense que c'est un des spectacles de musique électronique et expérimentale à ne pas rater du tout à Québec, en tout cas de toute l'année.
Ben voilà, Eric Mattson, merci beaucoup. Je répète, en fait, Atelier Mécano ouvrira au public le 10 mai à compter de 17 heures.
Oui, mais il est plein.
Non, mais on peut aller voir résultat.
Le résultat, oui.
Le concert de Mini Bloc et tout ça. En prétextant, Léonard de Vinci est présenté le 11 mai à compter de 20 heures. D'accord. Le prix d'entrée, c'est 10 $ ou 8 $ si vous avez le laissez-passer. Et finalement, le temps 3, en attendant, H.J. Wells est présenté le 11 mai à compter de 20 heures. On est rejoint à l'instant par Ingrid Bachmann qui présente Bestiaire et Matériaux. Bonjour.
Oui, bonjour.
Ça va bien?
Oui, merci.
Oui, votre exposition, elle a débuté depuis un certain temps. Je pense que elle est là depuis le 13 avril.
Le 13 avril, oui.
Et là, vous faites un retour aujourd'hui pour le vernissage officiel de la manif d'art de Bestiaire. Peut-être en commençant, Bestiaire, c'est une œuvre inédite que vous avez faite pour la manif ou...
C'est la première fois que j'ai montré, mais c'est pas fait complètement pour la manif. J'ai travaillé avec ce œuvre depuis, c'est presque 7 ans.
Et ah oui,
je travaille
quand même,
très
hein?
lentement. Je travaille avec plusieurs œuvres en même temps. Et Nicole Gingras, le commissaire, a choisi cette œuvre.
Et Bestiaire, en fait, si on résume, c'est des fourrures, en fait, comme des fourrures synthétiques noires qui sont animées de mouvements avec des dessins sur les murs. Est-ce que je résume des portraits
oui,
sur les
oui,
murs?
Oui, je pense qu'il y a vraiment, je pense que ce sont les bêtes un peu, avec un caractère individu. Et c'est les sculptures dans un format cinétique, quelquefois interactif, qui réagit, quelquefois la présence humaine, quelquefois quelque chose d'autre.
Et ça implique vraiment pour le spectateur d'arriver devant chacune de ces bêtes-là, comme vous les présentez, et de voir est-ce qu'elle va bouger, parce que je pense qu'il y en a qui ne bougent pas aussi,
oui,
donc c'est un jeu. Alors, est-ce que ça va bouger? Est-ce que c'est moi qui provoque le mouvement? C'est important, je pense, l'interaction pour vous?
Oui, aussi de vraiment jouer avec ça. Et c'était aussi très important pour moi de créer une surface qui est un peu comme la fourrure, mais c'est quelque chose de très naturel, mais en même temps quelque chose de très synthétique.
Oui, parce que le matériau utilisé...
C'est un caoutchouc noir et je veux un matériau qui est à une fois attirant et aussi un peu repellant. Et les cheveux et la fourrure, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de l'accord et aussi à l'extérieur. L'intérieur, ça vive, à l'extérieur, c'est mort. Et c'est aussi la fourrure et les cheveux sont des choses partagées avec les humains et les animaux. Et avec cette œuvre, j'ai pensé un peu à cette idée d'hybride. La plupart des fois, quand on pense à la machine, on pense que les machines travaillent pour nous. Et ces machines-là, ils travaillent pour eux-mêmes ou pour quelque chose d'autre. C'est pas l'humain qui est leur première...
Oui, ou parfois, elles sont carrément un prolongement de nous. Je ne sais pas s'il y a cette idée-là d'hybride aussi qui est exploitée.
Oui, on pense toujours que cette hybride de machine humaine, mais on ne pense pas à cette hybride animal humaine machine.
Ben oui, c'est ça, parce que vous dites vouloir insérer la technologie dans un cadre sensuel, vous dites aussi vouloir mettre un peu de bestialité dans la technologie. Est-ce que c'est une manière de réconcilier l'humain avec ses origines et d'une certaine manière un peu son avenir ou son présent?
Oui, j'ai toujours pensé que la technologie est nue. Et je vraiment aimais faire une fourrure. Et c'est vraiment une histoire d'origine de la technologie et un essai d'aller à retour de le domaine un peu bestial, animal. Parce que dans la plupart des fois, quand on parle de la nouvelle technologie ou art numérique, c'est plus quelque chose qui est autour de le corps. C'est les surfaces comme métal, très dur.
Ouais.
Et j'aimerais faire quelque chose de très sensuel, plus matériel, qui nous souvienne de notre origine dans le monde physique.
Puis en même temps, on parlait de mouvements tout à l'heure, de ces bêtes-là, mais c'est des mouvements qui, eux, malgré un dispositif dont j'imagine qu'il est très complexe, c'est des mouvements qui sont très naturels, une respiration, un soubresaut. On est vraiment partout dans la subtilité.
Oui, c'est vraiment dans la subtilité. C'est toujours un jeu un peu en vue. Pas être trop subtil que les gens ne savent pas, mais parce que la plupart des fois, avec les machines, c'est vraiment cette idée de performance, que les machines performent pour nous, et c'est quelquefois spectaculaire, et celui-là, c'est très subtil. C'est les mouvements comme la respiration, comme les petits mouvements, et j'ai fait beaucoup de recherches avec les animaux aussi. J'ai fait des visites à l'aquarium à Baltimore pour voir les méduses, qui a vraiment les mouvements intéressants. Et chacune s'est inspirée par, pas exactement par un animal, mais par plusieurs recherches dans le monde.
Et on parle des fourrures tout à l'heure, mais on disait c'est synthétique, mais il y a quelque chose d'intéressant. J'ai lu à quelque part que les matériaux sont usinés, mais les fourrures, elles ont été faites à la main, si je comprends bien. Chaque petit poil a été fait à la main.
Oui, c'est fou. Et j'ai essayé de trouver une surface qui est déjà créée, mais ça n'existe pas. Et après, j'ai vu cette caoutchouc, et j'adorais ça. Et je pensais, OK, je peux utiliser peut-être quelque chose un peu mécanique. mécaniser un processus pour faire la surface, mais ça arrive pas et c'est fait tout par la main et j'ai l'aide avec ça, c'est une grande.
Oui, j'imagine. Vous devez avoir eu des assistants.
Non, c'est la folie et ça, c'est, j'ai vraiment, veux pas ça, mais je sais que j'ai besoin pour l'œuvre. Ça.
Puis en même temps, ça explique aussi la raison pour laquelle l'œuvre, elle est amateuriale plus oui. spécifiquement, donc tout le travail de la main qui est fait, là, j'imagine.
Mais pour moi, ça, c'est pas, si je peux trouver la surface, je l'achète. C'est pour ouais. moi cette, et j'espère que le travail, c'est pas vraiment, ça existe pour les autres, qui est intéressant pour les autres raisons, et que c'est fait à la main, c'est quelque chose à côté.
Okay, okay.
C'est seulement, c'est pas pour moi.
Oui, parce que vous le publicisez pas, mais non. Ça reste quand même une dimension très impressionnante quand on apprend la chose. Combien de temps de travail, juste pour curiosité comme ça, pour faire ces fourrures-là?
Beaucoup, et j'ai travaillé avec, il y a trois personnes qui travaillaient avec moi, et c'est vraiment aussi un peu génial parce qu'on a vraiment les bonnes discussions autour de faire ce travail. Mais pour moi, j'aime pas faire ce travail comme ça.
Ah non, c'est trop long.
Non, c'est trop long, c'est ennuyeux, on doit s'asseoir, toutes les choses que je n'aime pas. Mais c'est ça. C'est, mais j'ai vraiment fait, aussi on a trouvé une usine à tissage à New Orleans qui a fait le tissu pour faire. Okay. Pour nous, on fait ça pour moi gratuitement parce
wow,
que
hein,
c'est très
même.
Les projets d'art et non c'est vraiment intéressant, c'est le projet, c'est ça bouge.
Et on parle beaucoup des bêtes, mais au mur il y a des grands dessins qui sont des portraits oui. finalement de ces bêtes là.
Oui, c'est la plupart, mais je fais plusieurs dessins avant de commencer le travail, mais après je fais les bêtes. J'ai fait les dessins qui sont les portraits de les bêtes. Et c'est aussi pour leur donner un sens d'une autre vie. Et nous arrivons à la galerie et nous voyons les bêtes et les bêtes voyons leurs portraits. Et pas seulement nous. C'est un peu de humeur aussi dans ça.
De faire le portrait comme ça,
oui.
des heures.
Et c'est de fêter ça après ils sont faits. Et ça, c'est pour donner aussi une autre existence un peu.
Oui, c'est ça. Puis il y a l'existence dans le mouvement, oui. puis il y a l'existence qui est figée aussi oui. par le portrait.
Oui.
Voyons, j'avoue, oui, c'est ça. Je suis en train de perdre ma question. On n'en a pas parlé encore, mais principalement, tout est en noir.
Oui.
Pourquoi le noir?
Mais, c'est pas, je trouvais cette matériau et j'aimais ça. Et je trouve que le noir, c'est aussi un peu une couleur sensuelle. C'est un peu dangereux. C'est un peu sexy. C'est un peu, j'aime que ça, c'est un peu entre plusieurs choses. Et aussi, le noir est quelque chose qui c'est vraiment, on peut entrer dedans. C'est un noir très foncé, mais avec,
oui.
et je trouve
quand
que.
Des reflets aussi.
Des
là.
Reflets aussi. Et, de trouver que c'est quelque chose qui sont pas, c'est pas très réel, c'est pas comme le fourrure naturel, et que c'est vraiment autour de ce qu'on pense.
Puis, on a disséminé, quelques petits rares éléments sur lesquels on voit du rouge, le rouge mm-hmm. pour le sang. Le rouge,
c'est
pour la violence, la couleur? Ou?
Peut-être tout ça. Je ne sais pas exactement. Quand je travaille, j'ai plusieurs idées, mais le travail commence un peu. Pas instinctif, mais dans une façon. Et mais je pense peut-être la sang, peut-être un peu de couper un peu cette noix. C'est pas exactement.
Mais à tout le moins, ça a le mérite de donner oui. comme du rythme à l'exposition, puis oui, un petit punch oui, aussi oui. Parallèlement. Peut-être une dernière question en terminant. Qu'est-ce qui vous a amené justement à travailler l'idée de ces bêtes-là? Je n'ai pas posé la question au départ, mais vous aviez envie de travailler quelque chose qui s'anime? C'était quoi la réflexion de base pour l'exposition?
Pour moi, la plupart des fois, je travaille avec sauf les choses kinétiques ou interactives, mais avec les choses usagées, avec beaucoup de mémoire ou d'histoire. Et pour moi, je suis vraiment intéressée à utiliser les technologies numériques dans un espace très physique et aussi avec l'histoire, peut-être un espace psychologique. Et cette fois-là, c'est vraiment cette idée d'animaux. Et il y a plusieurs années, j'ai fait une recherche. Je ne pensais pas que c'est entré dans ce travail, mais c'est ça. À les laboratoires de textile médical où peut qu'il y ait plusieurs liens entre les animaux et les humains. Et parce qu'il fait, dans une de les labos, il fait la aorte pour l'humain, et ça, c'est, il fait tisser, non, tricoter un tissu qui est attaché avec la aorte d'un cochon. Et maintenant, on utilise la plupart des fois ces bio aorte pour les humains. C'est presque 30 ans que c'est vraiment... Et maintenant, les médecins sont presque les fermiers parce qu'on doit vraiment avoir les cochons spécialisés. Et c'est intéressant aussi, un peu choquant aussi pour moi, de penser que nous, comme humains, nous sommes vraiment très proches aux cochons et aux vaches. Et pour moi, c'est intéressant de vraiment confronter cette notion quelquefois inconfortable de notre lien avec cette bestialité, cette animalité.
Mais Ingrid Backman, merci beaucoup.
Merci.
Donc, l'exposition Bestiaire est présentée à Materia jusqu'au 20 mai.
Voilà, c'était un dernier court extrait de la suggestion de Simon Roy. Cette semaine, il nous proposait l'album « Dupa » de Bipolar. C'est publié sur l'étiquette Feedback Loop Label. Donc, si vous voulez trouver les liens pour le téléchargement, c'est l'aérospatiale.wordpress.com. L'émission tire déjà à sa fin. Avant de terminer, je vous invite peut-être aujourd'hui jusqu'à 20h. Vous pouvez voir, c'est la date limite, en fait, pour voir l'exposition « Là-bas, le lointain » d'Alan Lake. Également, à 20h, il y a une projection du film qui accompagne la dite exposition. Sur ce, je vous remercie et je vous laisse avec Denis Lelièvre en remplacement de Gilles Chaumel à Folk d'Amérique.